On continue notre petite étude sur le livre d'Éphésiens. On est rendu au chapitre 2, la fin du chapitre 2 ce soir, à partir du verset 19. On est en train de continuer la ligne de pensée que l'apôtre Paul a amenée, Dieu, il nous avait béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Puis l'apôtre Paul a commencé à énumérer toutes les affaires que nous, les païens, on était privés à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, parce qu'on était pécheurs, mais aussi parce qu'on faisait pas partie de la descendance d'Abraham. Puis qu'on était des incirconcis, puis à cause de ça, on n'avait pas peur aux promesses. Mais on a vu que Jésus a renversé le mur de séparation qui nous séparait, qui séparait les Juifs d'avec les païens. Là, maintenant, tous les païens ont accès, s'ils le veulent, s'ils ont la foi, de saisir les promesses de Dieu, puis pouvoir en participer. Fait que je commence avec ça ce soir. Ça, c'est ce qu'on avait vu à la dernière étude. Le mur de séparation qui existait entre Juifs et païens a été renversé par Jésus. C'est ce qu'on a vu dans les versets 15, 16, 17, 18, là, que la victoire, la possibilité de s'approcher de Dieu avec assurance, puis de pouvoir profiter de tout l'héritage de Dieu, c'est donné à cause de Jésus. Les Juifs, ils se sont endurcis, puis ça a ouvert la porte aux nations, puis c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on peut être chrétiens, qu'on peut être sauvés. Maintenant, nous sommes plus des étrangers. Parce qu'il dit qu'on était étrangers des promesses à cause qu'on était séparés, à cause qu'on était des incirconcis. Maintenant, nous ne sommes plus des étrangers, mais on est des participants à toutes les promesses de Dieu. Ça, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 19, qu'on commence ce soir. Ça nous dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. » On était des étrangers, mais à cause qu'on a passé par Jésus, on n'est plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais on est concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ça, c'est quelque chose. Parce qu'avant, on était privés de tout, maintenant, on est concitoyens des saints. Oui, on l'a vu aussi dans les études du samedi, qu'on est citoyens, on est des saints, hein. On est des saints en Jésus. On va faire partie de la ville sainte. On est des concitoyens. On fait partie de la même cité. Tous les saints, que ce soit juifs ou païens, on est dans la même gang. On est tous des citoyens du royaume saint, le royaume céleste, la ville sainte. Tout ça, c'est pour nous. On a un accès à cause de Jésus. On n'est plus des étrangers. On a été acceptés maintenant dans la famille de Dieu. Parce que tous ces saints-là, que ce soit juifs ou païens, c'est des gens adoptés dans la famille de Dieu. Parce que Dieu avait un seul fils unique, c'était Jésus. Les autres deviennent tous fils et fille de Dieu par adoption en passant par Jésus. L'accès est rendu possible à cause de Jésus. Même pour les Juifs, parce que les Juifs, eux autres, ils se pètent les bretelles, disent, oh, moi, je suis un descendant d'Abraham, puis ils pensent que toutes les promesses, Jésus a dit non, vous avez pour père le diable, puis vous voulez accomplir ses désirs. Mais il y en a des Juifs qui se sont convertis au Messie, qui ont cru au Messie, eux aussi ont été adoptés. Fait qu'ils sont devenus saints. Puis nous aussi, on a cru en Jésus, puis on est devenus saints. Maintenant, on fait partie de la citoyenneté, on a une nouvelle citoyenneté. Oui, on est des Canadiens, mais on n'est pas juste des Canadiens. Canadiens selon la chair, mais citoyens du royaume des cieux en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On fait maintenant partie de la famille de Dieu. Dans Jean chapitre 11 et verset 51-52, il y a un moment donné, il y a eu un sacrificateur que lui, il a eu une révélation. Il a poussé c'était le souverain sacrificateur du temps de Jésus. Puis il y a eu comme une poussée d'inspiration par le Saint-Esprit. Puis ils en ont parlé dans l'épître de Jean. Pas dans l'épître, dans l'évangile de Jean. Ça dit que la parole qu'il a dit, il n'a pas dit ça de lui-même, mais il étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et, puis là, c'est là que Jean rajoute, ce n'était pas pour la nation seulement, en parlant pour les Juifs, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. On voit là-dedans que Jean, quand il écrit l'Évangile, avait déjà la vision d'interpréter la prophétie de ce souverain sacrificateur-là, puis de dire, Jésus n'est pas juste mort pour la nation juive, entre guillemets. Il est mort aussi pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés, ça veut dire les païens, qui étaient pour être ajoutés au corps de Christ, parce qu'on est tous des enfants de Dieu en Jésus, puis c'est dans le but de nous rassembler pour former un seul corps. Fait qu'on n'est plus des étrangers, on est 100% alimentés de la sève de Dieu. C'est ce que Jésus a dit, en fin de compte, quand il dit « on était greffés au cep ». C'est Jésus qui l'a dit, ça. Puis le cep, c'est Jésus. Dans Jean 15, 5, ça dit, c'est Jésus qui a parlé, il dit « je suis le cep, puis vous êtes les sarments ». Le cep, là, c'est le pied de la vigne, d'un plant de vigne. Le pied, là, les racines, le pied de la vigne, ça c'est le cep. Jésus dit « je suis le cep », puis que nous, on est ses sarments. Les sarments, c'est les branches, toutes les branches qui sortent du cep. Puis il dit qu'on est maintenant greffé au cep, on est alimenté de la sève du cep, puis c'est là que les fruits peuvent sortir dans nos vies. Il dit « celui qui demeure en moi et en qui je demeure » porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous pouvez rien faire. On voit là-dedans que Jésus incluait les païens, parce que ça a eu un accomplissement, que les païens se sont greffés au cep. Puis on fait maintenant partie dans ce verset-là, de la vigne de Dieu. Jésus, c'est le cep, puis nous autres, on est un des sarments. Puis il y a des millions de serments qui ont poussé, qui ont été connectés à Jésus depuis. Déjà, présentement, il y a à peu près 700, 800 millions de chrétiens sur la terre. Je parle pas des catholiques, je parle pas des religions, je parle des vrais chrétiens évangéliques, des gens qui ont cru au salut offert par Jésus-Christ. Tout ça, c'est pour nous révéler un mystère qui était un mystère avant que Jésus vienne, puis que les gens ne comprenaient pas, ils pensaient que c'était juste pour les Juifs, mais le mystère que Dieu a révélé, c'est que la grâce de faire partie de l'Israël de Dieu maintenant est pour tous. Parce que c'est pas tout Israël qui est sauvé, c'est ceux qui marchent par la foi. Parce que Jésus l'a bien dit, vous allez voir Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes entrer dans le royaume de Dieu. Ça dit pas « et tout le peuple d'Israël entrer dans le royaume ». C'est tous les prophètes, c'est tous ceux qui sont nés de l'Esprit dans l'Ancienne Alliance, vont entrer dans leur royaume. Puis nous, en Jésus-Christ, après, dans l'Alliance en Jésus, mais on rentre dans l'Alliance de Jésus, puis on devient des prophètes de Dieu, puis on va faire partie de ceux qui sont animés de l'Esprit, qui ont été nés de l'Esprit. Parce que sans naître de nouveau, sans naître d'Esprit, on ne peut pas rentrer. Mais quand on est né de nouveau en Jésus, on fait maintenant partie du cep. Puis ça, c'est un mystère qui est révélé après que Jésus soit venu. Ils ont compris ça, que le salut devenait accessible aussi aux païens. Que la grâce de faire partie de l'Israël de Dieu est disponible même pour les païens, est disponible pour tous. Dans Romains 11, 25 et 26, ça nous dit, « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. » L'apôtre Paul, il l'explique dans ce verset-là, de quel mystère qu'on parle. « Afin que vous ne regardiez point comme sages. » C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion, puis il détournera de Jacob les impiétés. Mais pour accomplir ce mystère-là, c'est à comprendre que le peuple juif devait vivre un endurcissement pour permettre aux païens de se convertir. tous les païens maintenant, on ne parle pas de tout le monde païen, mais tous les païens qui devaient venir au salut vont venir au salut, puis ils vont le recevoir. C'est ça que ça dit. Fait que les Juifs qui sont sauvés, plus tous les païens qui vont être sauvés, c'est ainsi que va être formé Israël. Israël, le vrai Israël de Dieu, celle qui va être sauvée, qui va accomplir que le libérateur viendra de Sion puis détournera de Jacob les impiétés. Jacob, c'est Israël. Le vrai Jacob, le vrai Israël de Dieu, c'est les sauvés. C'est eux qui vont avoir le péché, ils vont être libérés de leur péché, puis qui vont être pardonnés, puis qui vont être sauvés. Fait que c'est composé, pas juste de juifs, d'une partie de juifs, puis une partie de païens, qui vont faire partie. Ça dit ainsi, pas en voulant dire qu'ils vont être sauvés par la suite, les autres, non, ça dit ainsi, là, ça veut dire les quelques juifs et les païens, ensemble, ainsi, ça va être l'Israël qui va être sauvé. Ça, c'est un mystère. C'était pas révélé, parce que les Juifs étaient bien orgueilleux, puis ils étaient comme... ils se retiraient, ils voulaient pas toucher aux païens, ils voulaient pas les approcher. Jésus a enlevé ce mur-là, puis a donné l'accès à tout le monde de pouvoir être sauvé. Maintenant, notre salut, puis notre croissance en tant que païens, là, dans le Seigneur, sont fondés sur les enseignements des apôtres, puis qu'eux autres sont appuyés sur Jésus. Notre fondement, c'est Jésus, puis les enseignements de Jésus. Dans Éphésiens 2:20, ça dit, « Vous avez été édifiés, » il parle à des païens, « édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, puis Jésus-Christ étant la pierre angulaire. » La pierre angulaire, c'est la pierre principale qui soutient toute la bâtisse. Comme une pierre, une footing. Jésus, c'est la footing, puis les pierres bâtissent dessus pour faire une maison. Fait qu'on est édifié, on grandit dans le Seigneur en écoutant les enseignements des apôtres. Même si t'es païen, t'es été greffé, tu es maintenant édifié. Chaque fois qu'on écoute les versets de la parole de Dieu, on continue à grandir spirituellement, on participe à cette maison-là, on est nous-mêmes une pierre dans cette maison-là. On peut maintenant, à cause de Jésus, boire aux eaux vives du Seigneur. Dans Jean 4:14, Jésus a dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, puis l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Fait que nous, les païens qui n'avaient aucun droit, maintenant on n'est plus des étrangers, puis on a le droit d'aller s'abreuver à Jésus, puis boire ses eaux vives, qui nous vivifient, puis qui coulent, puis qui jaillissent à travers de nous. Ensemble, juifs et païens, nous formons ensemble un édifice spirituel, un temple saint sur cette terre. Parce qu'on sait qu'il y a un temple saint dans le ciel, dans la ville sainte. Mais maintenant, sur cette terre, nous sommes le temple de Dieu, sur cette terre. Dans Éphésiens 2:21, ça dit « En lui, en Jésus, tout l'édifice, parce qu'on est comme je disais tantôt, Jésus, c'est la pierre angulaire, le fondement, la footing, c'est les enseignements des apôtres, puis nous autres, on est édifiés pour être une maison de Dieu. Mais tout l'édifice est bien coordonné, puis elle s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Fait qu'en Jésus, on est chacun de nous une pierre, on a tout été appuyé sur le fondement qui était l'enseignement des apôtres, puis Jésus qui est la footing, puis on est une pierre qui forme le temple saint de Dieu sur cette terre. Quand on est à l'Église, on est le temple saint. Je suis pas le temple saint à moi tout seul. On est une construction quand on est en groupe. On est juste une pierre parmi les pierres. Mais c'est ensemble, quand on est ensemble, qu'on devient comme une habitation de Dieu en esprit. C'est quelque chose, cela. Le Saint-Esprit est là en chacun de nous, puis il produit à travers chacun de nous tout ce qui se dégage de chacun par la présence du Saint-Esprit. Ça devient la maison de Dieu. Fait que l'Église, c'est pas nécessairement la bâtisse, le bâtiment qu'on se réunit. L'Église, c'est la réunion de tous ceux qui sont sauvés. On est sortis du monde, on a été rachetés, on appartient à Dieu, puis on est maintenant l'édifice de Dieu, un temple saint. Fait que Dieu habite la terre à travers son Église. C'est fort. Fait faut pas se penser qu'on n'est rien. On est quelque chose, pas à cause que moi je suis quelque chose ou que vous, vous êtes quelque chose, mais on est quelque chose à cause de ce qui a été déposé en nous, c'est la présence du Saint-Esprit, puis qu'ensemble, on devient un temple saint où ce que Dieu habite sur cette terre. Puis il veut même habiter dans nos maisons aussi, si on l'invite. Il faut prendre au sérieux notre marche dans la sainteté. Parce que quand on est un temple saint, dans 1 Thessaloniciens 3:13, ça dit de fermer nos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu. Fait qu'il faut que nos cœurs s'affermissent, deviennent forts, qu'on réalise notre position en Dieu, en Jésus, qu'on devienne fort, puis qu'on pense à être irréprochable au niveau de la sainteté. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire le ménage dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos agissements pour qu'on soit des gens saints dans notre conduite. Parce que on est devant Dieu. Lorsqu'il va revenir nous chercher, avec tous les saints. Parce que on va être des saints sur la terre encore vivants. Quand il va revenir nous chercher avec tous les saints, ça dit dans ce passage-là, parce que Jésus va revenir du ciel avec les saints ressuscités, puis il va venir pour nous enlever, pour qu'on soit avec lui pour l'éternité. Fait qu'il vient chercher les autres saints qui restent. Fait qu'il dit d'affermer notre cœur pour qu'on soit irréprochable dans sainteté devant Dieu lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Fait que vu qu'on n'est plus des étrangers, on est des gens qui participent, on s'abreuve de l'Esprit-Saint, on est un édifice spirituel ensemble, puis on est le temple saint du Seigneur, chacune des pierres doit veiller à marcher dans la sainteté. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu nous a rachetés afin qu'on lui appartienne, puis qu'on lui glorifie. C'est ça qui est important, on est là pour vivre pour lui. Regardez bien comment est-ce que ça dit ça dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? » Notre corps, c'est le temple, c'est l'habitation du Saint-Esprit qui est en nous, qu'on a reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. On ne s'appartient même plus. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Quand Jésus nous a rachetés, c'était pas juste pour nous pardonner, c'est qu'il a payé ce que ça coûtait pour nous racheter afin qu'on lui appartienne. Il dit, on s'appartient plus. On est maintenant une habitation de Dieu, puis l'Esprit de Dieu est en nous. Puis là, il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartient à Dieu. Fait que notre corps puis notre esprit doit servir à glorifier Dieu. Parce qu'on était rachetés puis on s'appartient plus, on appartient à Dieu. On est des temples de Dieu sur cette terre. C'est pour ça qu'il faut faire attention de vivre dans sainteté, d'être irréprochable dans sa sainteté. Ça veut dire qu'un chrétien doit fuir les corruptions de ce monde, les péchés de ce monde. Faut pas qu'il embarque là-dedans. Faut qu'il marche de façon à pas attrister le Saint-Esprit. Nous sommes maintenant construits pour être une maison pour Dieu. C'est ce que ça dit dans Éphésiens 2, 22. C'est le dernier verset pour ce soir. Il dit, en Jésus, en lui, vous êtes édifiés. Ça, c'est construit comme un édifice. On est édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça, c'est pas juste le samedi à l'église. Tous les jours, on est une habitation de Dieu en esprit. Invitons le Saint-Esprit à demeurer, à prendre toute la place, puis à nous aider aussi à faire sortir tout ce qui n'est pas de lui, pour que notre être tout entier soit rempli de la plénitude de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour tes promesses qui fait de nous de tes enfants. On est maintenant ton temple. Merci Seigneur de l'œuvre que tu as faite pour qu'on puisse être sauvé. Merci de la vie éternelle. Merci de ton Saint-Esprit. Merci de l'œuvre de sanctification aussi que tu fais. Donne-nous, aide-nous, Seigneur, de vivre cette sanctification afin qu'on soit un temple saint dans le Seigneur. Merci de ce que tu vas faire dans la suite. On s'en remet à toi. On te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.